En République démocratique du Congo, le vécu quotidien des Congolais est miné par la corruption, une pratique enracinée dans les mœurs congolaises et maintes fois dénoncée par des ONG parmi lesquelles l'Observatoire anti-corruption. Cette ONG s'active également sur le terrain par des actions de sensibilisation et d'information pour prévenir et lutter contre la corruption en RDC. Mais quelles sont les méthodes préconisées par cet observatoire pour lutter efficacement contre la corruption? Nous faisons le point avec Tati Mapoukou et nous allons recevoir juste après des invités qui sont bien placés pour répondre à toutes vos questions. Si vous avez des questions et aussi, pourquoi pas, des propositions et même des témoignages, vous avez été victime de la corruption, allez réagissez au 081 070 20 50. Tati Mapoukou, vous avez eu à faire une enquête sur la question. Alors, à propos de la corruption, que disent exactement les Quinois à ce sujet?
Nicole, il faut dire que le concept de corruption n'est pas nouveau pour les Quinois. Tout le monde en parle. La corruption est un moyen frauduleux qui utilise quelqu'un pour avoir accès à un quelconque avantage social. Pour vous faire une idée, notez que la corruption est l'utilisation et l'abus des pouvoirs à des fins privées. Ces fins privées sont généralement l'enrichissement personnel ou pour les comptes des tiers. En somme, Nicole, nous pouvons la définir en deux mots comme étant une pratique illicite. C'est ce que pensent les personnes que nous avons rencontrées. Suivez-les dans ces reportages.
Corruption, les alliés actes. Pour moto azali ko oyé ya ko kende na dikambo to droit na azali ko mona ke azali na mbeba alingi ke nani afuta moto oyé ya ko kiko landela yo par exemple na dikambo pour a devier réalité ya dikambo ye a gagné procès to corruption azali na makambo mingi mwana na atana bana mike azali ko tanga classe. Oye atanga klase to droit azali koluka ke ako korompre ba professeur na ye, ba nani na ye, po ba dirije ye, misala na ye, ba pesa ye, ba rezulta oye asengeli ni angote. Bo, na misala pe, atelma ekomi na korupsyon, po te ozwa monsala ifo korompre. Po sala li kambo nyoso ekoma na korupsyon, pourcentage. Ba to bacha makambo bele bele na makambo etali korupsyon. Korupsyon ezali akte moko. Oyo ezali kolongola moto na nzela ya normal ekoti tie na mensonge nzela ya lokota po moto agagne elikambo oyo azali nango tala na chambre froide moto azali kokende kosomba mbisi mpona koteka bazali kosenga yeke pesa biso droit droit c'est quoi c'est une corruption pote moto wana ubien aservir ye noke liboso ya baninga.
Voilà, vous avez des témoignages, vous aussi vous souhaitez réagir, faites-le au 081 070 20 50 ou écrivez-nous à action@radiocapi.net. La corruption aujourd'hui règne au maître dans tous les domaines de la vie active.
Alors, c'est vraiment récurrente.
Oui, mais il faut dire que c'est une réalité partout, pratiquement beaucoup. Il n'y a pas de pourcentage. C'est raison pour laquelle nous avons associé Moipou, qui est expert en matière juridique de l'organisation de lutte contre la corruption. Il est là pour nous éclairer davantage sur cette question. Mais semblerait-il, Tati, ce n'est qu'une prévention. La corruption n'est pas en aucun secteur de la vie des Congolais.
Nicole, à en croire les personnes que nous avons interviewées, la corruption touche pratiquement tout le domaine de la vie sociale. Tout le monde s'accorde cependant que c'est le secteur de l'éducation qui est le plus touché. Nous vous laissons suivre les témoignages de ces messieurs que nous avons contactés.
Personnellement, moi, la corruption, c'est un tremplin, un moyen malhonnête pour arriver à un résultat qu'on ne mérite pas. Qu'on ne mérite pas, c'est la valeur intrinsèque d'une personne. Voilà.
Tu peux évoquer un cas?
Je vais prendre un cas par exemple. J'ai demandé un élève qui n'est pas intelligent, qui ne mérite rien, mais il donne l'argent à son professeur pour qu'il puisse lui donner des points. Et avec ce point, il monte des classes. Parce qu'il m'a comme bonjour. Moi, pour le moment, je suppose que ce phénomène est aussi dans quel domaine. On vit ça partout. Pour arriver à un problème, à un dossier, et si vous voulez que ce dossier soit bien traité, il faut donner quelque chose, il faut griffer quelque chose. On le fait partout. Donc, je pense à tous les domaines. Dans tous les domaines. Mais le domaine le plus touché pour le moment, le domaine qui, à mon sens, peut atteindre un niveau, un pourcentage de cas, c'est le domaine de scolaire, donc le domaine de l'éducation nationale, l'éducation nationale. Dans notre pays, c'est comme ça. Donc, les élèves ou les étudiants passent moins de classes comme ça, sans qu'ils puissent donner le meilleur d'eux-mêmes. Voilà. Donc, ils montent de classe facilement comme bonjour en donnant de l'argent aux professeurs. Ça ne m'arrange pas parce qu'on ne forme pas un homme, un perroquin, si on forme un homme juste formé pour être utile à la société humaine. Donc, pour étudier.
Eh oui, il faut étudier, ça c'est pas moi qui le dis, mais plutôt la personne que vous avez rencontrée, parce que lui, il nous a dit que la corruption règne vraiment en maître, surtout dans le domaine de l'éducation. Je dis combien d'enfants n'ont pas réussi à l'école parce qu'ils ont corrompu un professeur, et sachant surtout que les enseignants sont sous-payés, c'est un problème, hein. Allez, réagissez au 081 070 2050. Mais nous avons appris également que ce phénomène est généralisé, Tati Mapoko. Et surtout dans le domaine de l'administration publique, il n'y a pas que l'éducation. Est-ce que vous avez contacté un fonctionnaire pour en parler avec lui?
Effectivement, Nicole. Au cours de notre reportage, nous avons fait un tour du côté de l'hôtel de ville de Kinshasa. Nicole, sans faire d'autres commentaires, écoutons le témoignage de ces fonctionnaires de l'État.
Kanyaka.
Corruption.
C'est en gros, Kanyaka. Kanyaka et la Kinshi. Exemple, Nazaria ou l'hôtel de ville. N'allez pas dans ma cam. C'est Zingati Namai. Fona mwana mokonji na kubanda na se kwa kumwana na se wa kubanda kwa komplike ngayi kuna nini nalo kila ye mwae loko moko bo ina presa ye po ali kisa ngayi po vima kambo na ngayi ebunga na bakonji ndo example ngayi na presa yoko te ya Kanyaka batu ya leta o batu la kayangoa surtout ce côté ya viso batu ya leta po nali kisa yo te ya mokonji po presa ngayi kwa kisho po presa ngayi te mwae nali kisa yo ezali po nabandiko komplike yo po tala kenda yaka lobi po na presa ki ye loko moko surtout kote ya bana soko nyo kwa mamingi mwani bana mingi bazai susu kwenye kula malamu te porukwa muke muke ba bengani ye nere wana o bengani ye leso wana ovyo nere ngena kufuta ya bino mbongo yoko salimu okomona akena klasi kona azo akite po nako pesa mwae loko okomona alikisi ye ise nere wana ulikisi ye po na pesa yo mwakere kishozi ulikisi ye oti ye pe mayene na mutuna ye oti ye mayene na mutuna yete wana uzali kubuma edikasyo ya bana toko sana na pesa yo mbongo me mutuna ye kikarika kabzidi.
Madesso Bana, Kanyaka, tout cela, c'est pour dire que la corruption règne vraiment.
À tout le coin, dans toutes les boîtes.
Oui. C'est la raison pour laquelle nous en parlons aujourd'hui, parce qu'il y a quelques ONG qui se sont regroupées pour dénoncer justement la corruption. Nous parlons de l'Observatoire anti-corruption. Nous avons déjà dans ce studio Mouepou Mouepou, qui est expert en matière juridique de l'organisation de lutte anti-corruption RDC. Il est bien placé pour nous donner quelques pistes de solutions. Peut-être qu'il y a des pistes de solutions. Mais nous avons nos associations également, auditeurs de Radio Capi, toujours au 081-070-2050. Tu vois pourquoi on va s'arrêter là, n'est-ce pas?
Je vous en prie, Nicole.
Merci.
Au Capi, fréquence de la paix.
Notre invité est là, il est bien placé pour répondre à toutes vos questions. Retenez qu'on va recevoir deux personnes dans ce studio. Nous avons déjà Mouepou Mouepou, monsieur Mouepou Mouepou qui est là. Nous vous l'avons dit, il est expert en matière juridique de l'OAC. Nous aurons également dans ce studio monsieur Mbongi Mbongi, expert chargé de programme toujours au sein de la même organisation. Ils sont là pour nous aider à aller de l'avant dans le domaine de l'anti-corruption. Bonjour monsieur Mouepou Mouepou.
Bonjour madame.
Alors, nous savons que...
Excusez-moi, je ne m'appelle pas Mouepou Mouepou, je m'appelle Mouepou Mibanga.
Ah, d'accord, c'est une erreur grave, mais c'est Mouepou
Mibanga.
Mibanga. Voilà. Alors, nous savons que vous êtes expert en matière juridique au sein de l'OAC, autrement dit, l'organisation de la lutte contre la corruption.
C'est ça.
Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez pu faire pour lutter contre la corruption? Parce qu'on a l'impression que, malgré tous vos efforts, ça évolue plutôt bien ici en RDC, la corruption.
Madame, vous savez, la corruption, comme a dit un de nos amis à notre organisation, la corruption est plus dangereuse que le sida. Parce que elle attaque tout le monde. Elle tue tout le monde. Même ceux qui n'ont rien de près ou de loin avec elle. Tandis que le sida n'atteint que les gens qui fréquentent le milieu de sida. Alors, la corruption, vous savez, c'est une maladie, c'est une gangrène qui s'est plongée dans notre société, spécialement chinoise, comme vous en parlez. Et qu'est-ce que nous avons pu faire? Nous sommes nés, en tant qu'organisation, organisation anticorruption, en 2002. Et en cette année-là, nous avons obtenu la personnalité civile, nous avons constitué un groupe d'administrateurs, nous avons partagé les services entre nous, et nous nous sommes mis au travail. Mais ce travail, comme il ne peut pas se faire tout seul, notre première démarche était de s'approcher de l'administration publique, en particulier du chef de l'État. Nous lui avons expliqué le point de vue de notre organisation.
Vous l'avez rencontré ?
On l'avait rencontré, comment on voulait mener la lutte. Et le chef de l'État a particulièrement appuyé l'action de l'OAC. Il a même déclaré qu'un des premiers points de sa lutte serait la lutte anticorruption.
Et comment comptez-vous mener cette lutte que vous avez expliquée en long et en large au chef de l'État ?
Alors, cette lutte devait se mener pour nous, pour notre organisation, en faisant un partenariat très actif avec d'autres organisations qui luttent dans la même direction que nous, et on devait conjuguer des efforts sur deux points précis. Le premier point, c'était l'approche directe avec la population concernée. C'est ainsi que notre organisation a d'abord divisé notre société en 18 groupes. Les groupes des institutions publiques, les groupes des services de sécurité, les enseignants, les magistrats, et les syndicats, les femmes, jeunesse, et ainsi de suite. Et nous avons divisé notre société comme ça, en 18 groupes, que nous devrions approcher l'un après l'autre, de manière à approfondir avec eux les situations de corruption pour chercher ensemble les voies et moyens, comment endiguer le mal ou en tout cas les réduire en leur milieu.
Ça a été fait depuis 2002.
Depuis 2002.
Et comment les choses ont-elles évolué aujourd'hui en 2007?
Alors, de 2002, 2003, 2004, 2005 jusqu'en 2006, nous avions eu des plans de gestion pour organiser des séminaires, des centres, un peu des travaux de formation. Nous avons eu des travaux avec des étudiants au campus. Nous avons eu des travaux avec des enseignants. Nous avons eu des travaux avec des magistrats. Et il nous restait à aller en direction des autres groupes selon notre division des 18 groupes.
Qu'est-ce que vous leur dites concrètement à travers ce séminaire? Qu'il ne faut pas vous faire corrompre par la population. Mais vous l'avez suivi tout à l'heure à travers les témoignages.
Mais madame, vous savez que la corruption... il y a toujours deux éléments, un corrupteur et un corrompu. Et dans les milieux que nous avons subdivisés pour faciliter le travail, il y en a quelques-uns qui se comportent comme des corrupteurs, il y en a quelques-uns qui sont comme des victimes de la corruption.
Parlons de l'enseignement. Alors, vous avez associé les enseignants dernièrement au cours d'un de vos séminaires de formation. Mais aujourd'hui, tout le monde sait. Il suffit de voir le niveau de l'élève aujourd'hui. Hein. Il est tellement bas que, bon, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? La plupart des enseignants, vous avez suivi, sont corrompus par leurs élèves.
Oui, les enseignants dont vous parlez, ils sont dans
c'est qu'un exemple, hein.
Ils sont dans la catégorie de ce que nous appelons la petite corruption.
Pourquoi la petite corruption et la grande?
Oui, il y a la petite et la grande. La petite corruption, c'est celle qui concerne la vie du citoyen, le vécu quotidien. Alors, le citoyen qui cherche son vécu quotidien, s'il est fonctionnaire, il a besoin d'un salaire. S'il est ouvrier, il a aussi besoin d'un salaire. Et lorsque ce salaire est payé régulièrement, petit soit-il, lui permet quand même de vivre. Mais s'il n'a pas ce salaire, il va chercher des solutions un peu
des spéculations, si vous voulez, et un peu immorales, et un peu corruptives, comme nous disons, mais c'est pour, justement, arriver à vivre. C'est ce que nous appelons la petite corruption.
Alors, comment empêcher cette petite corruption à travers votre ONG?
Justement, nous avons la tactique de formuler des solutions alternatives à l'intention de ceux qui ont la mission de gérer le personnel administratif ou le personnel ouvrier.
Mmh.
Et lorsque nous leur suggérons des méthodes de couvrir les besoins de ces personnels-là par leurs avantages légaux et par ce qui est dû d'après le Code du travail et par ce qui est dû d'après les conventions collectives, et nous pensons que avec ces applications, le personnel, soit de l'État, soit même les ouvriers privés, pourraient quand même faire face à leur vie quotidienne.
Alors, on reste dans cet exemple. Jusqu'à ce jour, les enseignants continuent à réclamer le barème d'Omboudi. Vous savez que la plupart des enseignants étaient en grève dernièrement. Donc, finalement, vos préoccupations ne rencontrent pas le pouvoir public. Donc, tous vos efforts sont vains.
Non. À ce sujet, lorsque nous avions organisé certains séminaires, nous avions fait des propositions concrètes à l'administration publique pour que ce qui est convenu soit payé. Pour nous, Mboudi ne devrait pas poser une question. Et lorsqu'il a été convenu entre l'État et le personnel enseignant de payer ceci, cela, et nous pensions que ça pouvait résoudre le problème dans le milieu des enseignants.
Allons-y, il y a d'autres exemples qu'on peut donner également au niveau de la fonction publique. Aujourd'hui, le fonctionnaire...
D'autres exemples.
L'administration publique se retrouve elle-même corrompue malgré les efforts louables de l'ONG anticorruption.
Mais justement, l'ONG anticorruption seule ne peut pas finir la corruption. Elle devrait fonctionner en rapport ou en collaboration avec le pouvoir public.
Mais si le pouvoir public lui-même aussi est corrompu?
Non, le pouvoir public est corrompu, vous le dites, mais tout le monde n'est pas corrompu. Il faut commencer quelque part, comme par exemple le chef de l'État est décidé à en finir avec cette maladie. Si on trouve d'autres paramètres pour conjuguer les efforts, on ira toujours petit à petit. Mieux vaut toujours commencer quelque part que de se décourager en disant tout le monde est corrompu. On le dit, c'est vrai, mais il y a des gens aussi non corrompus là-dedans.
Laissez-moi pour Nibangal, rappelons que vous êtes expert en matière juridique de l'OAC, observatoire anti-corruption. La pauvreté est multiforme et multisectorielle en RDC, autant la corruption l'est. Est-ce que vous tenez compte de cet aspect?
Nous tenons compte de cet aspect puisqu'il y a une interaction entre la pauvreté et la corruption. Tantôt, la corruption, surtout la corruption au niveau de macro, que j'appelais tout à l'heure la grande corruption, c'est-à-dire le détournement des fonds publics affectés aux travaux publics, par exemple, au profit de quelques personnes. Et ce genre de corruption-là crée la misère, puisqu'elle prive un nombre de citoyens du travail, prive les citoyens des structures d'emploi et prive les citoyens des moyens de vivre. Et par exemple, des infrastructures. Et par conséquent, du fait d'avoir détourné à un niveau très élevé les fonds affectés, par exemple, à un grand marché public,
à une réhabilitation d'une route,
oui, par exemple, ça crée la misère.
Oui, mais bon, il faut reconnaître une chose, c'est que dans ce pays, il n'y a pas que la RDC, et tous les pays en voie de développement certainement rencontrent les mêmes problèmes. La population de la RDC vous suit et vous pose des questions. On va lire rapidement quelques questions que les auditeurs nous posent. Nous avons par exemple la question de Timothée depuis Béni, qui nous dit il est vraiment difficile de lutter contre la corruption au moment où le gouvernement n'arrive pas à payer les salaires comme prévu dans l'accord de Mboudi. J'exhorte cette ONG à s'attaquer au gouvernement car, dit-il, le ventre creux n'a pas d'oreille. C'est Timothée qui vous le dit. Est-ce que vous êtes d'accord avec l'invitation que vous lance Timothée depuis Béni?
Le ventre creux n'a pas d'oreille. C'est un proverbe que nous connaissons depuis les temps les plus reculés. Et on le connaît depuis l'école. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une personne qui vit dans la misère a difficilement la capacité de devenir, vertueuse. Cette personne-là ne se préoccupe que de son existence, de la survie, mais quand vous lui parlez des valeurs morales, des valeurs intellectuelles et autres capacités, elle ne vous écoute pas.
Mais justement,
et c'est comme ça qu'on dit, le ventre creux n'a plein d'oreilles. Et
on a comme l'impression, monsieur Mopou, oui. Libanga, depuis que vous êtes lancé dans cette démarche
oui.
de la lutte contre la corruption, vous n'avez pas encore réalisé un résultat
positif.
Parce que finalement, 2002, 2007, 5 ans plus tard, rien de concret n'est fait.
Vous tournez en rond, en fait.
On ne peut pas dire qu'on tourne en rond. Vous savez, le travail...
Que des rapports.
Le travail, je dirais, social est assez difficile parce que vous injectez des principes, vous injectez des règles dans les têtes des gens. Il faut un temps pour qu'ils puissent
assimiler. Mais ça ne peut pas se limiter aux règles. Il faut du concret. Aujourd'hui, on parle de Madé Swabana. Hein, vous l'avez suivi tout à l'heure. On parle même de Kanyaka.
Kanyaka,
merci. Kanyaka. Donc, c'est pour dire que, bon, la théorie ne suffit pas. Hein.
Oui, madame, nous avions, chacun de nous, membres de cette association, nous avions proposé dans nos études à l'administration publique de foncer avec la sanction à un certain niveau. Comme on dit, l'exemple, le bon exemple vient d'en haut, c'est les dirigeants, à tous les niveaux, qui devraient pouvoir changer la façon d'être et de faire appliquer la sanction. Ainsi, ça peut créer une certaine crainte à un certain niveau.
On devrait sanctionner qui ?
Sanctionner le coupable. Imaginez-vous, par exemple, quand on a appliqué quelques méthodes de comportement à Kinshasa, entre autres pour le comportement des chauffeurs, entre autres pour certains comportements. Il y a eu quand même quelques changements visibles. Alors, nous n'avons pas la police. Nous avons un apport à une action qui complète l'action du gouvernement, si vous voulez. Et nous ne pouvons pas travailler seuls. Et avec nos partenaires, nous n'avons pas le pouvoir contraignant pour obliger les gens à suivre telle ou telle règle. Bon, il faut arriver.
Mais pas appuyer, hein, finalement. Vous limitez la théorie. Mais
nous ne limitons pas la théorie.
Le concret, la pratique, l'État congolais, le pouvoir devrait vous appuyer.
Mais qu'est-ce que vous voulez? Lorsque nous disons, par exemple, au gouvernement provincial qu'il faut payer tous vos fonctionnaires des communes, et que lui ne paye pas, qu'est-ce que nous pouvons faire?
Alors finalement, vous ne servez à rien?
Non, il ne faut pas dire que nous ne servons à rien. Nous sommes toujours, comme on dit, un guettier qui apporte l'attention à celui qui doit gérer la
chose. Oui, parallèlement, c'est que vous dites là, il y a un auditeur qui répond au nom de Jean-Michel Kamba, qui réagit à partir de Kinshasa ici à Djili, et dit je vous affirme que le secteur le plus touché, c'est la justice, car les victimes sont les pauvres et la basse classe.
La justice, vous savez, depuis la conférence ou le dialogue intercongolais, tout le monde a décidé de rendre la justice indépendante, de manière à ce qu'elle puisse agir sans interférence de quiconque. Et on pensait qu'avec cette indépendance, la justice pouvait, avec les méthodes de flagrance, arriver à nettoyer un peu notre société pour la débarrasser.
Malheureusement, c'est pas le cas.
Bon, si vous dites que ce n'est pas le cas, on ne sait pas où, par où commencer pour établir les responsabilités.
Oui, au sein même de la justice, vous avez dit que il y a également le même problème, la corruption.
Le Kanyaka, c'est à tous les niveaux.
Oui.
Oui, le Kanyaka, vous savez, c'est une infraction assez grave. Hein. Et de la manière qu'elle est punie par la loi, elle permettrait au milieu judiciaire de poursuivre en flagrance.
Et par rapport au contexte de notre société,
oui?
Pourquoi ne pas institutionnaliser ces Kanyaka-là? Parce que le contexte de la pauvreté, aussi longtemps qu'on est pauvre, bon, donc ça, c'est pas moi, c'est une opinion, on l'a dit, c'est mieux de le.
Votre famille n'a pas de rôle.
Non, il ne faut pas institutionnaliser, c'est-à-dire rendre officielle la corruption. Ouais. C'est une maladie.
Mm.
Et on ne peut pas institutionnaliser une maladie. Il faut la combattre.
Oui, il faut la combattre. Nous avons
également. Il faut avoir des armes. Hein.
C'est ça.
Il faut avoir des armes, même vous autres de la presse.
Vous êtes aussi inarme, mais vous êtes le quatrième pouvoir.
Oui.
Et c'est pour cela que nous nous servons de vous pour injecter les idées sur cette...
Mais aujourd'hui, M. Motu Nibanga, la population compte vraiment sur vous pour arriver à lutter contre la corruption. Nous avons été voir, nous sommes également avec M. Mbongi Mbwangi, n'est-ce pas, qui est expert en charge
du programme.
Monsieur Mbungu, voilà.
Oui, Mbungu.
Décidément, il y a un problème avec vos noms.
Son nom, je crois que c'est comme ça que ça s'écrit.
Oui, Monsieur Mbungu Mbungu, c'est bien ça. Expert chargé de programme au sein de cette même organisation de lutte contre la corruption. Vous avez tout à l'heure eu à suivre l'entretien qu'on a eu avec votre collègue. Aujourd'hui, il nous a dit que la corruption était pire que le sida. Alors, vous, à travers ce programme, puisque vous êtes chargé d'un grand programme. Est-ce que ça évolue plutôt bien, ce programme?
Oui. Le programme OAC évolue très bien. Malheureusement, comme vous vivez vous-même, vous êtes membre de l'OAC.
Oui.
Vous êtes parmi les 18 composantes, la presse, représentée par Willy Kalengai. Nous devons nous souder, la presse et les autres. Le programme que nous menons, c'est le programme qui était financé par le PNUD. Malheureusement, à un moment donné, le financement PNUD s'est arrêté pour des petits problèmes que nous avons connus. Nous avons un programme qui commencerait cette année. Nous avons commencé cette année par nos propres forces, nos propres moyens, au lieu d'attendre le financement de l'extérieur par nos cotisations, pour que nous puissions commencer à placer les signes,
pour démarrer le programme.
Oui, dans les lieux publics,
les prospectus,
les affiches, les pancartes, à l'aéroport d'Njili, au beach Gobela. Et dans les bâtiments.
Oui, ce que vous faites, ce n'est pas pareil avec la campagne dernièrement lancée sur le
changement de mentalité, un peu. Changement de mentalité est venu nous rejoindre. Mais ce qui est important, nous avons une visée. C'est nous visons l'élimination, l'éradication de la corruption sur l'ensemble de la ville de Kinshasa.
Mais vous n'avez aucun moyen.
Le moyen, si. Donnez-nous
vous
le moyen.
Vous avez dit que vous n'avez aucun
vous
moyen.
Vous nous donnez ces moyens déjà à la presse.
Non, vous aviez les moyens.
Nous avons les moyens.
Oui, et puis le monde ne vous a pas encore financé.
Non, mais c'est comme ça que nous avons dit. Nous nous sommes décidés, nous membres de l'OAC, nous commençons par quelque chose. Ce n'est pas pour faire des pancartes quelque part à leur port international Njili ou au Bitingobela que nous allons attendre des 1 million, des 2 millions ou $2,000 de là.
Et c'est depuis 2002 que vous avez démarré votre campagne.
Oui, depuis 2002, mais il y a eu un problème. Vous voyez, c'est la politique. Nous ne pouvons pas faire la lutte contre la corruption si la politique n'est pas calme. Nous sommes partenaires numéro un de l'État sur cette question.
Mm.
Comme il y avait les problèmes de composantes, la guerre, puisque on vient de sortir de cette situation, nous avons maintenant les institutions qui sont sorties des élections. Le président de la République est élu, la légitimité, ce n'est plus une question à discuter, elle est acquise, et c'est ainsi que nous démarrons maintenant. Nous démarrons le programme, nous avons commencé par la sensibilisation.
Mais vous reconnaissez tout de même que c'est aussi un problème de volonté, parce que nous avons vu pour cette année, si je prends juste l'exemple de la police de roulage, il y a quand même des avancées significatives. Hier, on parlait des tracasseries, mais aujourd'hui, on sent quand même que les choses bougent de ce côté-là.
Mais ça n'a rien à voir avec vous,
Si, nous avons commencé cette action. Nous avons commencé cette action, les cagnacs dont vous avez parlé tout à l'heure, ça entre dans le cadre.
On sait que le conducteur de véhicule,
oui,
chaque fois qu'il
oui, était donné... le secteur routier était ciblé. Et nous avions déjà lancé les signaux et qui ont donné les résultats.
Auprès de qui?
Auprès des autorités de la police. Nous avons même placé dans certains coins. Moi-même, j'ai mené la
Donc, vous êtes des partenaires de la police.
Nous avons...
Partenaires pour combattre la corruption.
La corruption. Et voilà, les résultats sont là.
Est-ce que vous êtes présent partout en RDC ou bien seulement à Kinshasa?
Oui, nous sommes présents partout. Nous avons des points focaux dans chaque province de la République. Nous avons des points focaux, mais malheureusement qu'il faut réanimer.
Même à Bouté, vous êtes présent parce qu'il y a un auditeur qui dit je m'appelle Godé Malimingi, bonjour, prière, mais faire l'adresse email ou le numéro de téléphone de cette ONG anticorruption, donc l'Observatoire 2.
La même réaction que plus retour en Nord Kivu, il y a un auditeur qui nous dit donnez-nous une adresse email où nous amasserons les places.
D'accord, nous allons vous laisser l'adresse email. Pourquoi? Parce que nous avons placé dans chaque chef-lieu de province un point focal. Et c'est lui qui récolte les informations. Et
mais il y a quand même un danger. Parce que, bon, est-ce qu'il y a un contrôle qui se fait en aval? Le point focal, il est là, mais lui-même aussi, il peut être, surtout que c'est une maladie, pire que le sida, il peut être attaqué par la corruption, ce point focal.
C'est vrai, madame. Il nous a été posé cette question partout où nous sommes passés, dans toutes les provinces, quand nous sommes allés faire la campagne. La question était de savoir, monsieur, vous amenez une question très belle. Vous voulez nous faire quitter de la corruption, mais qu'est-ce que vous nous donnez en remplacement? Alors, c'est ici que nous sommes en train de monter des programmes économiques. Le programme économique commence par faire le lobbying auprès du gouvernement, des ministères de la fonction publique pour les paiements réguliers des salaires. Parce que c'est un problème important de paiement des salaires, quel que soit le minimum de salaires, qu'on les paye régulièrement. Mais à attendre qu'on ait l'argent pour qu'on paye deuxième palier, troisième palier, alors qu'on n'en a pas, eh bien, ça va appauvrir même le gouvernement, parce que la plus grande corruption, c'est dans le...
On va revenir sur cette question prochainement, parce qu'il y a beaucoup de questions qui nous arrivent d'un peu partout au Congo. Hein. Nous avons plus ou moins une vingtaine de questions.
Oui.
On va conclure. Aujourd'hui, vous avez une lutte qui n'est pas facile.
Oui.
Mais bon, il faut reconnaître que vous-même aussi, vous êtes exposé. Vous l'avez dit vous-même. Oui. Vous n'êtes pas appuyé. Vous vous battez avec vos propres moyens pour aller de l'avant. Aujourd'hui, on peut même vous corrompre. Vous pouvez aussi être attaqué par cette maladie qui est la corruption.
Tout à fait. Tout
n'est-ce pas? Alors, peut-être que vous avez un mot de la fin avant qu'on ne se sépare.
Un mot de la fin, moi, je reviendrai à ce que dit Siracide, que je ne rappelle pas très bien des chapitres. Retenir le salaire d'un ouvrier, c'est un assassinat. Il faut qu'on paye les salaires des gens. Et cela permettra de déboucher sur quelque chose de positif. Aujourd'hui, on ne calcule pas assez les effets de cela, mais je pense bien que la culture de paiement des salaires, si elle devient effective, nous verrons des résultats au bout de quelques temps.
Mm-hmm.
Je suis sûr.
Voilà. Alors vous, monsieur,
vous
n'avez pas peur d'être attaqué par la corruption?
Non.
Aujourd'hui, si on vous remet 10 000 dollars, vous allez refuser?
J'ai 60 ans. J'ai géré, je continue à gérer. Je n'ai jamais été tenté à soutirer de l'argent ou à vivre de l'argent d'autrui. Mais ce que je voudrais, c'est l'implication de tout le monde, du président de la République au dernier citoyen, que nous puissions nous mettre ensemble. Le président de la République a déjà dit oui à soutenir l'OAC. C'est comme ça que nous sommes en train de nous organiser maintenant.
C'est vraiment un phénomène planétaire. Hein. On ne va pas l'éradiquer totalement. Mais au moins,
il faut commencer quelque part.
C'est tout un processus.
Ouais, ouais.
Allez, merci beaucoup d'avoir été notre bon courage.
Merci, madame. Merci. C'est nous qui vous remercions.